Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient, Wallis Glaise. Voici les titres. Avant l'annonce d'un cessez-le-feu par Donald Trump entre l'Iran et Israël, l'Iran avait mené hier soir des bombardements sur deux bases militaires américaines au Qatar. Nous allons y revenir avec Pierre Bertolo, chercheur associé à l'IPSE et directeur de la revue Orient Stratégique dans cette édition. Le tribunal d'Alger a requis 10 ans de prison contre l'auteur Boualem Sansal. Il avait fait appel après une première condamnation à 5 ans d'emprisonnement. En 2025, les proches de l'écrivain franco-algérien demandent une grâce présidentielle. Et un peu de culture, c'est jusqu'au 29 juin. La Villette célèbre le théâtre avec la première édition de Molière Fest, un festival gratuit et en plein air, mêlant spectacle, performance et ateliers. Bienvenue dans votre magazine d'information. Nous commencerons par le point sur l'actualité et enfin nous développerons les dossiers du jour. Dans notre point d'actualité, malgré le cessez-le-feu décrété par Donald Trump dans la nuit, les frappes ont repris ce matin. Israël a fait part de tirs de missiles iraniens sur le nord de son territoire et a promis, je cite, une réponse de haute intensité en représailles aux attaques américaines survenues dans la nuit de samedi à dimanche. L'Iran a lancé hier une réplique symbolique au Qatar. Lundi, le ministre israélien de la Défense avait indiqué que son armée frappait Téhéran avec une force sans précédent. L'OTAN se réunit pour un sommet de 2 jours aujourd'hui et demain à La Haye, c'est aux Pays-Bas. La hausse des dépenses de sécurité de ses membres sera le point majeur des discussions. Les frappes américaines en Iran sont également dans tous les esprits. Dans le reste de l'actualité internationale, au Liban, le ministère de la Santé a confirmé la mort de 3 personnes suite à une frappe israélienne dans le sud du pays en violation du cessez-le-feu de novembre 2024 avec le Hezbollah. 2 bases militaires irakiennes près de Bagdad et dans le sud du pays ont été visées par des drones sans faire de victimes. Aucune revendication n'a pour le moment été faite. En Syrie, des suspects ont été arrêtés dans le cadre de l'attentat suicide contre une église à Damas que les autorités attribuent au groupe État islamique. Le président du pays promet une punition équitable. La sanction s'est aggravée, initialement condamnée à 5 ans de prison ferme. Le 27 mars dernier, en première instance, Boualem Sansal, l'auteur franco-algérien, est écopé de 10 ans de prison aujourd'hui lors d'une audience devant la cour d'appel d'Alger. L'écrivain franco-algérien est détenu en Algérie pour des propos jugés hostiles à l'Algérie. Mélanie, la surveillante poignardée à mort par un collégien à Nogent, c'est en Haute-Marne, a été faite chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. On l'a appris aujourd'hui grâce au journal officiel publié dans la journée. Politique, une ébauche de programme présidentiel. Hier, l'eurodéputé et coprésident de Place Publique, Raphaël Glucksmann, a présenté sa vision pour la France à l'occasion d'une conférence de presse à Paris. Il a défendu un projet qui s'articule autour d'une France puissante qui protège et d'un nouveau contrat social et démocratique. A débuté hier la Défense Jazz Festival qui bat son plein actuellement à Paris. La Défense, elle se poursuit jusqu'au 29 juin. Plus de 20 concerts gratuits sont proposés sur la place de la Défense. Une belle occasion pour découvrir ou redécouvrir le jazz dans une ambiance conviviale et festive. L'entrée est libre, alors ne manquez pas ce rendez-vous musical incontournable. C'est la fin de votre point d'actualité. Place à présent aux principaux dossiers de votre magazine du jour. Avant l'annonce d'un cessez-le-feu par Donald Trump, le président américain, entre l'Iran et Israël, puis l'accusation d'Israël d'avoir violé le cessez-le-feu, l'Iran avait mené hier soir des bombardements sur 2 bases militaires américaines au Qatar. Nous y revenons avec Pierre Bertolo, chercheur associé à l'IPSE et directeur de la revue Orient Stratégique. On l'écoute.
Je pense que le message qui a été envoyé, et c'est pour ça que Trump aussi a réagi, c'est que finalement toute la région peut être impactée. Parce que jusque-là, ces pays du Golfe, bon, ils voyaient ça avec une grande inquiétude, mais ils n'étaient pas directement embarqués dans le conflit. Là, à partir du moment, effectivement, où on envoie quand même des missiles, ça veut dire oui, symboliquement on l'a fait. Mais si ça continue, ce ne sera pas symbolique. À ce moment-là, on tapera les bases américaines et en sachant très bien que les États-Unis vont être extrêmement gênés parce qu'ils vont tomber dans ce scénario que ne veut pas Trump, à savoir une guerre réelle avec l'Iran. Donc il y a une espèce de dissuasion mutuelle qui s'est instaurée, mais l'Iran a joué un coup quand même stratégique intéressant, on pourrait dire, puisque effectivement il a fait comprendre que c'est tout le Golfe, toute la région qui peut couler si lui-même est menacé sérieusement. Et je pense qu'il y a dû avoir des pressions extrêmement fortes des alliés du Golfe des États-Unis pour leur dire on arrête parce que nous on veut pas effectivement être impacté par ce conflit.
Avec les différentes parties qui pour le moment sauvent la face en évitant l'escalade.
C'est ça l'art de la dissuasion, c'est que on va jusqu'à, c'est un peu du poker aussi, on va jusqu'à un certain point et puis on voit comment l'autre va réagir. Donc effectivement, il y a eu une tentative de démanteler, de se faire s'effondrer l'appareil militaro-politique iranien. C'est la stratégie israélienne classique de frapper extrêmement fort dès le début. Bon, bah, visiblement, jusque-là, ça n'a pas fonctionné. Les Israéliens ne s'attendaient pas à ce que effectivement le dôme de fer soit percé tous les jours par les Iraniens. Donc ils ont montré qu'ils ont une capacité de résilience, quoi qu'on dise. Maintenant, il y a des inconnus, on ne sait pas le nombre de missiles balistiques qu'ils ont en leur possession. Certains disent 2000, d'autres disent jusqu'à 20 000. Donc dans ce cas-là, l'Iran peut tenir des semaines ou des mois. Et à ce petit jeu qui peut finalement être le plus fragilisé, paradoxalement, c'est plutôt Israël qui ne peut pas se permettre d'avoir une guerre de longue durée avec une économie fragilisée, effectivement, et un ciel saturé, alors que le territoire iranien est 80 fois plus grand, sa population est presque 10 fois supérieure. Donc, ils pensent, à tort ou à raison, qu'eux, ils ont les moyens d'être dans une guerre d'attrition, une guerre de longue durée. Et donc, c'est le message qu'ils ont envoyé, et effectivement, cette guerre de longue durée que l'Iran prétend pouvoir assumer, eh bien, pour Israël, ça semble difficile. Les États-Unis n'en veulent pas du tout, et les pays du Golfe sont extrêmement inquiets.
Ce mardi, à Gaza, la situation humanitaire s'aggrave encore. Le système actuel de distribution de l'aide confié à une fondation soutenue par Israël et les États-Unis est au cœur des critiques internationales. Les précisions avec Salma Dakhlaoui.
Le système actuel de distribution de l'aide confié à une fondation soutenue par Israël et les États-Unis est au cœur des critiques internationales. Philippe Lazzarini, chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a dénoncé ce dispositif comme une abomination qui humilie et dégrade les personnes désespérées. Il la qualifie de piège mortel, affirmant qu'il coûte plus de vies qu'il n'en sauve. À la même heure, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU à Genève a pointé du doigt l'utilisation de la nourriture comme arme à Gaza. Selon l'ONU, restreindre ou empêcher l'accès des civils à la nourriture constitue un crime de guerre. Les Nations Unies ont rappelé que 100% de la population de Gaza est menacée de famine après plus de 2 mois de blocus total. Depuis la création de la Fondation humanitaire de Gaza soutenue par Israël et les États-Unis, les scènes de chaos autour des points de distribution se multiplient. L'ONU rapporte que plus de 410 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne alors qu'ils tentaient d'atteindre des points de distribution et plus de 3000 autres blessés. Ce matin encore, la défense civile de Gaza a annoncé 21 morts et environ 150 blessés dans des tirs israéliens près d'un centre de distribution d'aide dans le centre du territoire. L'armée israélienne n'a pas commenté ces faits et les médias internationaux peinent à vérifier les bilans sur place en raison de restrictions d'accès imposées par Israël. Le porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU a appelé Israël à cesser de tirer sur les personnes qui tentent d'obtenir de la nourriture, à lever les restrictions sur le travail des humanitaires et à permettre un accès libre à l'aide vitale. La communauté internationale est exhortée à agir alors que la population de Gaza traverse un drame humanitaire.
Le parquet a requis 10 ans de réclusion à l'encontre de l'écrivain Boualem Sansal lors d'une audience ce matin devant la cour d'appel d'Alger. Elle rendra sa décision le 1er juillet. Arnaud Benedetti, fondateur du comité du soutien de l'écrivain franco-algérien, fait part de sa colère mais aussi de son indignation.
D'abord, un premier constat, c'est un réquisitoire qui est conforme à ce qui avait été le réquisitoire de première instance, c'est-à-dire 10 ans requis, mais c'est un réquisitoire qui double la peine qui a été celle de Boualem Sansal en première instance, puisqu'il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Donc c'est un mauvais signal, indéniablement. C'est un très mauvais signal. On nous avait annoncé plutôt une décrue, possible sortie de crise, voire une clémence potentielle. Là, le signal qu'envoie la justice algérienne et le pouvoir politique algérien est que pour le moment, il reste sur des positions extrêmement dures vis-à-vis de notre ami Bouhanem Sassal. Donc maintenant, il faut rester prudent parce qu'on verra ce qu'il en sera dans une semaine, c'est-à-dire lors du rendu du verdict. Mais disons que le réquisitoire ne nous incite pas pour l'instant à un excès d'optimisme.
Et justement, après ce verdict, quelles pourraient être les prochaines étapes concernant votre comité?
La prochaine étape, c'est d'attendre maintenant la date du 5 juillet, puisque ce qui se dit, se murmure là aussi depuis plusieurs semaines, même si nous, au niveau du comité de soutien, on a l'habitude aujourd'hui d'être très circonspect, très, très prudent et très réservé, parce que la plupart du temps, la réalité infirme un certain nombre d'annonces, c'est que notre ami Bouhanem Sassal pourrait bénéficier à l'occasion de la fête nationale algérienne d'une mesure de grâce. C'est pas la première fois qu'on nous annonce une mesure de grâce. Nous, c'est ce qu'on souhaite bien évidemment du fond du cœur.
L'échec du conclave sur les retraites à présent, les trois syndicats qui ont participé demandent au Premier ministre François Bayrou de prendre ses responsabilités après l'échec des discussions. Ils rejettent toute nouvelle séance de négociation avec le patronat. De leur côté, les députés PS déposeront une motion de censure contre le gouvernement Bayrou. Mais pour le porte-parole de Renaissance, Martin Garagnon, il ne s'agit pas d'un échec pour le Premier ministre.
Je ne pense pas que l'on puisse imputer l'échec de cette conciliation à François Bayrou. Au contraire, François Bayrou a donné sa chance au dialogue social, a fait vivre la démocratie sociale. Il a été assez souvent reproché au président Macron de manière assez injuste, finalement, de ne pas laisser les partenaires sociaux se mettre autour d'une table et de décider pour les sujets qui pouvaient les concerner directement. Ça a été tenté avec des mois de conciliation possible, des discussions, l'appui d'experts neutres, on va dire politiquement, qui apportaient leur expertise statistique sur ces sujets-là. Et malheureusement, le constat, c'est que les discussions n'ont pas abouti de manière satisfaisante. Donc c'est avant tout, à mon sens, l'échec d'une discussion sociale qui méritait bien davantage que des postures. On a vu d'ailleurs que ce conclave a été pour certains l'occasion simplement d'incarner une posture et non pas de discuter de manière désidéologisée et apaisée. Et au final, ce sont les Français qui risquent de trinquer parce que la question des retraites, elle est toujours très sensible. Elle mérite une réforme bien plus ambitieuse que celle qui peut être portée à certains moments, parce que lorsqu'on a des discussions qui sont à la marge, finalement, là aussi pareil, on recule pour mieux voter, on ne règle pas de manière pérenne une situation qui, à terme, on le sait, elle est statistique, elle est démographique, est explosive. Donc si on veut vraiment, sincèrement, préserver notre modèle social, là aussi c'est un enjeu de solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire que le système social dont nous bénéficions à l'heure actuelle, si on le valorise et qu'on souhaite le transmettre aux générations à venir, il faut pouvoir le pérenniser dans sa durée. Or, lorsque vous avez un déficit qui est structurel et qui va aller en s'aggravant année après année, ça n'est pas une solution pérenne. Et donc, c'est faire peser sur les générations à venir le coût de nos lâchetés actuelles.
Ce conclave a été décidé par François Bayrou. Les jours du Premier ministre à Matignon, du Premier ministre Bayrou, sont-ils comptés?
Vous savez, le Premier ministre a une longue carrière politique derrière lui. Je pense qu'il est parfaitement conscient de la situation, et non seulement de la situation, mais aussi de son absence de majorité à l'Assemblée nationale, hein, qui est la situation que l'on vit depuis maintenant plus d'un an, et la décision de dissoudre l'Assemblée nationale précédente. Donc le Premier ministre a un cap, c'est celui de faire avancer notre pays malgré l'absence d'une majorité. On l'a bien vu lorsque le gouvernement précédent a été censuré par le Parlement, par l'Assemblée nationale. On a des sujets qui sont très concrets, ne serait-ce que le vote d'un budget, c'est quelque chose qui a un impact immédiat sur la vie quotidienne des Français. Donc le Premier ministre non seulement assure la gestion des affaires courantes, mais aussi continue à faire pousser des textes qui sont des textes qui touchent les Français. Quand on parle du droit à la fin de vie, c'est quelque chose qui n'est pas neutre, c'est pas anecdotique. Le Premier ministre est au travail, il avance, maintenant il avance avec les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire l'absence d'une majorité, ce qui l'oblige aussi à avoir des discussions extrêmement attentives sur tous ces sujets pour réunir des majorités de textes, mais je ne suis pas persuadé que son sort soit le principal sujet qu'il ait le matin en se réveillant.
Un peu de culture à présent, amateur de théâtre, préparez-vous à vivre une expérience inédite en plein air à Paris, où le Molière Fest vous invite à redécouvrir les classiques sous un nouveau jour du 25 au 29 juin. Les précisions avec Salma Darlaoui.
À Paris, le théâtre sort des murs et s'offre une nouvelle scène en plein air à la Villette avec la toute première édition du Molière Fest. Du 25 au 29 juin, le festival investit la prairie du Triangle, les folies voisines et leur parvis, le jardin de la Treille et la folie belvédère, un événement gratuit et accessible à tous dès le plus jeune âge. Au programme, une plongée dans l'univers du théâtre classique et contemporain. Les spectateurs pourront découvrir des adaptations originales comme la saga épique des Trois Mousquetaires, adaptée en série théâtrale par le collectif 49701. Plusieurs cycles sont proposés tout au long de la journée avec des épisodes de 30 minutes chacun pour vivre une expérience immersive où le public devient parfois témoin, parfois figurant. Côté Molière, la compagnie Leca propose une farce sur la vie et la mort du grand dramaturge avec Molière et ses masques, une fresque drôle, inventive et pleine de rebondissements, accessible dès 7 ans. Le Molière Summer revisite les années d'itinérance de l'illustre théâtre avec une troupe qui s'improvise famille sur les routes et des personnages emblématiques qui surgissent d'une Dacia Logan Break remplaçant la charrette d'autrefois. Le festival invite aussi à la poésie et à la chanson avec des spectacles comme Sota Salta, un mélange de chansons, de jeux vocaux et d'histoires, ou encore Street Cheval, une chanson de gestes modernes et décalés. Enfin, la pièce Vendredi, inspirée de Michel Tournier, propose un dialogue touchant et humoristique avec le public autour des grands thèmes de la vie et de la société. Le Molière Fest, c'est donc un voyage théâtral, musical et poétique à vivre en famille ou entre amis dans l'un des plus beaux parcs de Paris, à la Villette. Un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer le théâtre autrement en plein air et gratuitement du 25 au 29 juin.
C'est la fin de votre magazine d'information. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à Raymond, à la réalisation. C'était Wallis Glaise. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.